Je suis brésilienne et désolée, mais je ne parle pas bien français. Je vais pas faire le mieux. D'accord. Bon, d'abord, bon, je me présente comme c'était déjà présenté pour Nicolas.
Parlez un peu plus fort. C'est pas le micro, c'est vous qui
Ouais.
devez parler plus fort.
La grippe, allergie. Bon, je suis sociologue à la CETES. CETES, c'est l'agence de l'environnement de l'État de São Paulo. C'est comme, n'est-ce pas, le ministère de l'environnement chez vous. Donc, c'est important de dire que je suis à la fois chercheuse et aussi professionnelle qui a comme mission mettre en place des politiques publiques. Donc, avec ces deux rôles aujourd'hui, les principaux rôles de ma vie, on peut dire ça, la posture pragmatiste, c'est très, très important. Et aussi, comme je dis aussi que je suis militant de l'environnement, ça fait longtemps, et donc ces deux rôles est aussi animé à cause de ce fort désir de transformer la réalité. Mais aussi, je pense que vous connaissez bien le Brésil, ou non? Mais aussi, peut-être parce qu'on vit dans un pays avec beaucoup de problèmes, et surtout la ville de São Paulo, qui c'est très, très, très complexe. Et on a l'impression d'être tout le temps en train de courir pour que le pire n'arrive pas. Mais on se rend compte qu'on est déjà dans les pires, donc on essaye de bouger le plus vite possible. Bon, le thème de ma intervention, c'est la littérature et le théâtre comme source d'inspiration méthodologique et épistémologique pour les sciences sociales. Ça veut dire qu'à partir d'un travail, une expérience que j'avais faite dans le centre-ville de São Paulo, avec ce désir de transformation, de mettre en œuvre une politique publique, j'ai vu la nécessité et la possibilité d'avoir cette réflexion et ces nouveaux regards sur les croisements ou les rencontres. Rencontres, ça veut dire, entre l'art, la littérature, le théâtre, avec les sciences sociales, que c'est le domaine où je travaille. Comme j'avais présenté, c'est une recherche réalisée dans une région du vieux centre de la ville de São Paulo. Donc, le but initial, c'était comprendre, parce que j'avais une mission dans le centre-ville qui s'est mise en œuvre une politique publique. La première chose qu'on avait dit, c'est qu'on doit connaître quelle est la relation entre les habitants et les passants avec ces centres-villes. Bon, donc cette recherche a été utilisée des méthodes inspirées par la littérature et le théâtre. Donc ce travail que je vous présente aujourd'hui, c'est basé sur cette recherche. Donc, c'est important de dire qu'on parle de São Paulo. Ça, c'est la ville, c'est la carte de São Paulo, qui c'est une ville avec 12 millions d'habitants, rien à voir avec des petites jolies villes chez vous. Bon, donc ça, c'est São Paulo. C'est dommage que j'avais oublié quelques photos pour montrer un peu cette diversité, mais bon. Et ça, c'est la région du centre-ville qu'on parle maintenant. Donc, cette recherche qui inspire ce travail a été faite dans le vieux centre-ville de São Paulo. Je montre quelques photos. J'avais fait la présentation du vieux centre-ville en mélangeant le passé et le présent avec une narrative que j'avais faite, mais on n'a pas le temps de les faire. Bon, c'est seulement quelques photos, d'accord? Ça, c'est des photos plus récentes que les gens que j'avais fait les entretiens ont pris, né? Et ça, c'est pour montrer un peu, comment on dit, l'occupation des espaces publics d'aujourd'hui au centre-ville de São Paulo. Né? Donc, pour atteindre les objectifs de la recherche, j'ai utilisé trois méthodes complémentaires. La première méthode, c'est ce que j'appelais des immersions anthropologiques. Et j'ai trouvé, je pense que cette première méthode, c'est très, très importante parce qu'à partir de cette première méthode, ça surgit les deux suivants. Donc, l'immersion anthropologique, elle a permis d'établir une relation étroite entre les chercheurs et son terrain d'étude et capter toute la richesse offerte par ces dernières. Donc, à partir de cette expérience, bon, j'ai déjà appliqué la méthode dans les autres endroits, j'ai vu que c'est très, très important, né, cette relation entre les chercheurs et les terrains. Ça veut dire qu'on conclut que les terrains, il est vivant. Hein? Et donc, arrive presque comme une symbiose, on peut dire, entre les chercheurs et son terrain d'étude. Donc, c'est à partir de la posture de les chercheurs que les terrains s'y ouvrent. Ouvrent? Bon, ça c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'instauration du narrateur pour restituer cette richesse polyphonique du terrain d'étude. Ça veut dire que ce que j'appelle la symbiose entre les chercheurs et son terrain, c'était très très forte. Donc là, on avait vu la nécessité de créer un narrateur pour avoir une espèce de... comment on se dit en français? D'abstraction pour le narrateur, pour raconter l'expérience des propres chercheurs et aussi l'expérience des autres personnages qu'il était rencontré dans le terrain. La troisième méthode, c'était la mise en scène théâtrale. Donc, pour faire vivre la grande scène sociale que les chercheurs avaient trouvée dans le centre. D'accord? Je vais pas dire un petit plus à tout à l'heure. Et la conclusion, c'était la représentation d'une pièce théâtrale comme ma façon de faire une espèce de laboratoire social. Bon, pour la première méthode, l'immersion anthropologique, bon, d'abord, pourquoi on avait choisi le Centre ancien de São Paulo? Parce que le Centre ancien de São Paulo, il y a une forte symbologie, parce que c'est où la ville est née. Hein? Et après, elle a développé ce qu'elle est aujourd'hui, avec presque 12 millions d'habitants. À cause de la complexité et diversité fascinante, et aussi à cause de la relation affective du chercheur avec ces endroits. Voilà. Et donc, la création du narrateur, c'était aussi pour raconter cette expérience entre les chercheurs et les centres-villes, parce que pour les chercheurs, c'est moi, hein? C'était un droit du passé. Ça veut dire qu'il a vécu dans l'enfance dans cet endroit, qui après est devenu complètement différent. Comment on dit ça? Dissipé? Non.
Dégradé.
Non, dégradé, oui. Mais que la média a mis, accentué la question de la violence, de, bon, etc. Dégradation. Bon, j'ai adopté aussi la méthode, le paradigme inquiète de l'italien anthropologue Canevati, né, qui c'est très important, le déracinement et la perte des repères familiers pour interpréter la polyphonie des voix qui coexistent dans la métropole. Donc cette posture aussi, c'était très importante pour déclencher les plongées dans les terrains. Voilà. C'est dépouiller de nos préjugés concernant les centres anciens. Cette chose que la média propague des dangers, des dégradations, pour redécouvrir les centres-villes et les groupes qui les occupent. Voilà. Et plusieurs communautés fermées. Ah, bon, dans cette immersion, on a trouvé dans les moments actuels, dans les centres-villes de São Paulo, plusieurs communautés qui ont appelé des communautés fermées parce qu'elles avaient comme caractéristique, excusez-moi, les regroupements des gens avec les profils identitaires similaires, voilà. Et donc, on a trouvé plusieurs communautés fermées qui occupaient l'espace et chacun savait délimiter son espace. Et cet espace de centre-ville, pendant la journée, on avait quelques communautés et quelques personnages, mais quand la nuit tombe, ça devient complètement différent. Donc, il y a une avenue qui se transforme complètement d'un endroit de passants, de cadres, de travailleurs. Ça devient une boîte de la rue, voilà, avec beaucoup de drag queens, travestis, voilà. Et donc, c'est cette transformation du scénario qui m'a impressionnée, et aussi les conflits entre plusieurs personnages, ça veut dire les habitants contre les homosexuels, quelques-uns contre les habitants de la rue, qui c'était le paysage indésirable, deu branco. Donc voilà, il y a encore un grand conflit pour l'occupation de cet espace. La deuxième méthode, donc, c'est comme ça qu'il a surgi le narrateur, que l'enjeu central, c'est de donner les voix aux personnages, à chaque personnage qu'il avait trouvé. Voilà. Parce que de chaque communauté qu'on avait trouvée, on a choisi un représentant et on avait fait des entretiens pour comprendre comment c'était la relation avec cet espace, comment c'était les conflits qui étaient instaurés. Então, les personnages sont les auteurs de leur propre histoire. Donc, nous considérons ces personnages comme des auteurs de leur propre ouvrage, vie, et de l'histoire partagée par le groupe d'identité auquel ils appartiennent. Mais aussi, on considérait l'instant de la poétique quand la personne transcende sa propre histoire. Quand la personne s'émancipe de son histoire et son groupe social. Parce que nous ne sommes pas un seul, mais plusieurs. Donc, pour la troisième méthode, voilà, plongée anthropologique, création de narrateur, la troisième méthode, c'est la mise en scène théâtrale. Ça veut dire que à chaque fois, dans les c'est difficile hein, d'expliquer, mais qui ont plongé dans le terrain, nous nous sommes aperçus qu'une grande scène se configurait devant nous. Les espaces publics se transforment sous notre regard. Nous voyons une délimitation construite par ces acteurs chargés de symboles et de codes. Ces acteurs connaissaient la trame de chacun de ces scènes dans laquelle ils pourraient jouer. Ça veut dire que chaque espace, c'était comme un palco. Palco, comment se dit? Une scène. Oui, oui. Et qui s'était occupé les personnages qui appartiennent à cet espace. Voilà. C'était le théâtre de la vie devant nous. Et pourquoi pas? Est-ce que nous ne sommes pas tous les temps en train d'adopter et de jouer des rôles? Et on s'est demandé pourquoi ces personnages parlaient avec nous? Parce que chaque personnage que j'ai trouvé, bon, j'ai fait l'entretien et après je l'ai invité pour me montrer les centres-villes, les endroits qui ils trouvent importantes. Ils ont pris des photos, voilà, etc. Ils ont passé plusieurs heures avec moi. Hein. Et donc, on demande pourquoi ces personnages parlaient avec moi. C'était des personnages à la recherche d'un narrateur de leur histoire qui rencontraient les narrateurs autour à la recherche des personnages. Pendant la journée, comme j'avais expliqué, l'endroit conserve ses caractéristiques de centre commercial et lieu de travail, et dans la période nocturne, la scène transforme en lieu de rencontre d'homosexuels produisant des conflits avec les personnages du jour. En conclusion, pourquoi une pièce de théâtre plutôt qu'un roman? Ça, c'est une chose qu'on avait réfléchi après. Bon. Si nous avons créé les narrateurs, auteurs, et avons composé une pièce de théâtre, c'est pour montrer les conflits qui surgissent dans l'occupation de cet espace public, la façon dont ce territoire est occupé de différentes manières dans le temps, jour et nuit, et dans l'espace. Mais c'est surtout en pensant aux conséquences, c'est-à-dire comment peut-on gérer ces conflits pour qu'il soit possible, malgré tout, de faire coexister la diversité des communautés. Bon, donc, c'est ça. J'avais pensé à une pièce de théâtre, justement, en pensant comment montrer les scènes des jours et les scènes de la nuit. Mais surtout, après, pour penser dans la méthode suivante, ça veut dire... comment on peut monter un laboratoire social pour que les gens puissent se voir, avoir un autre regard et permettre la coexistence. Voilà. Notre proposition est de réaliser un laboratoire social en commençant par une pièce de théâtre où tout le monde peut se voir et voir l'autre, impliquant tous les groupes et segments sociaux identifiés et représentés par leurs personnages, dans lesquels la nature du conflit et les mécanismes qui conduisent seront explicités. L'objectif est de stimuler la production d'une conscience réflexive qui permette l'émancipation de l'individu et la possibilité de la coexistence. Donc, c'est au début. J'avais le but d'installer, le but c'était d'installer un noyau d'éducation environnementale. Donc, on a cherché de connaître la relation des gens, les habitants, les passants, les travailleurs, oui. Avec cet espace. On a trouvé un conflit et donc, comme nous sommes toujours dans cette position de transformer la réalité, installer une politique publique, donc le premier pas, c'est justement comment gérer ces conflits d'occupation d'espace. Donc, la pièce de théâtre, c'est un instrument important, ça veut dire, c'est une hypothèse, parce qu'on n'a pas mis encore en marche, en scène, la pièce, mais qui peut permettre chaque groupe de se voir et voir la relation avec l'autre et, à partir de là, produire une réflexion et une construction vers une tolérance dans l'occupation de l'espace. Bon, c'est ça, désolé. Il y a plein de choses. Merci. Désolé pour les Français. Et voilà. Merci.
ça, je vais peut-être poser une première question. Du coup, j'étais intéressé par ce terme source d'inspiration dans les textes. Et dans le texte. Et, bon, pour faire un commentaire qui n'est pas du tout agressif, alors qu'il peut avoir l'air, c'est tout simplement que c'est pour savoir si vous rencontrez aussi le risque ou la possibilité aussi chez des personnes qui font du théâtre ou qui font de la littérature, que le terme source d'inspiration peut les offenser, pour une raison bien précise. C'est parce que vous parlez de source d'inspiration, et là, ça rejoint aussi ce que tu disais, Justine, pour le plaisir. Bon, ça donne peut-être la notion de justification extrinsèque de la valeur littéraire et théâtrale. Extrinsèque, ça veut dire que ce n'est pas forcément des valeurs... c'est pas forcément des valeurs qui sont dans les œuvres, dans la littérature elle-même.
C'est-à-dire pour une littérature non utilitariste. Mais néanmoins, s'il y a des effets positifs dont d'autres se saisissent, pourquoi pas ?
Donc toute la question, c'est ça tourne autour de ce pourquoi pas. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à dire pourquoi pas ? On donne des justifications utilitaristes d'effets esthétiques. Pourquoi pas, je suis d'accord, dans la mesure où est-ce qu'on ne risque pas parfois de soumettre l'esthétique, la littérature, à ces exigences sociales? Est-ce que c'est un risque? Et en tout cas, la réponse de l'Ecclésio, elle est révélatrice, mais pour moi énervante d'une autre façon, parce que répondre que la littérature fait un travail de témoignage, bien sûr, mais la littérature aussi peut revendiquer une valeur en soi, tout comme d'autres disciplines, une valeur intrinsèque, et qu'on n'est pas toujours soumis au fait de dire la littérature témoigne du devenir historique, etc. Pourquoi pas aussi, mais du coup, ce serait une valeur ajoutée. Peut-être à une valeur intérieure possible. Donc en tout cas, c'est pour savoir si parfois vous rencontrez l'idée que le théâtre ou la littérature, ça est là uniquement pour créer ce changement social, ou est-ce que ça conserve quand même une valeur propre à ces formes esthétiques.
Donc, merci pour ta intervention. Quand on avait mis... Non, c'est bien. Parce que quand on avait mis le théâtre et la littérature comme source d'inspiration pour les sciences sociales, oui, on n'avait pas pensé que ça peut déranger, entre guillemets. Voilà, mais c'est surtout quelque chose de plus profond, ça veut dire faire converser, parler à nouveau les sciences sociales, l'art et la littérature, parce qu'elles étaient complètement coupées. Et au contraire, je pense que c'était une critique à domaine où je suis, que c'est la science sociale. Mais, bien sûr, on doit faire attention à des choses qu'on met, parce que c'est à cause de ça que c'est important, la discussion ici, né, parce qu'elle nous fait réfléchir à plusieurs choses qui... Parce que ce travail, pour moi, il est très, très complexe. À chaque fois... onde, ça c'est une méthode que c'était liée à ça, est-ce qu'on pourra faire une mise en scène théâtrale qui peut être un laboratoire, comment je peux présenter ça, c'est très complexe. Donc pour moi c'est très important d'être ici pour discuter avec vous, pour justement, on n'a pas toutes les réponses, mais justement pour, et après cette immersion qui pour moi c'était très très riche. Chaque rencontre avec chaque communauté, personnage était très très riche. Et donc je pense que quand j'écris, j'ai essayé de trouver une façon de, transporter cette richesse. Voilà. Mas je pense que le travail, il y a la pièce de théâtre, je pense que le travail n'est pas encore fini.
Qui est le narrateur et qui est le metteur en scène? Moi, je ne comprends pas.
C'est difficile quand on est... Le narrateur, c'est moi-même, mais c'est le narrateur du chercheur, et le narrateur aussi des personnages et des scènes.
Et le metteur en scène. Là, c'est la
narrateur.
Deuxième méthode, troisième méthode. Première méthode, je comprends. Deuxième méthode, le narrateur. C'est qui?
Donc, c'est le chercheur.
C'est le narrateur qui est le chercheur. C'est le chercheur qui écrit.
Et après, c'est le chercheur qui fait des théâtres. Le théâtre, c'est le narrateur auteur.
Pardon? Le narrateur auteur.
Qui écrit la pièce de théâtre.
Et qui la met en scène. C'est un sujet complètement différent du précédent. Uh-huh. C'est-à-dire que là, c'est à part d'une démarche utilitariste, enfin d'une démarche qui, ce qu'on retrouve chez beaucoup de choses, là, dans la collection de Rosan Vallon, du seuil, là, où il faut prendre faire écrire les témoignages des gens de la... finalement, ils trouvent des gens pour écrire, Annie Ernaux pour la personne, etc. Donc ça pose le problème de l'écriture ou de... C'est-à-dire, c'est le chercheur qui se décrète auteur et dramaturge. C'est ça? Auteur de théâtre.
Oui.
Mais pour arriver surtout à des fins sociales.
Oui, mais là, il y a... Où est l'art? Où est la capacité de changer de registre, effectivement, pour des activités non utilitaristes priori, et qui n'ont pas le même objectif, en tout cas, qui est un objectif autre. Là, c'est... Il y a le théâtre de rue. Il y a aussi le théâtre là, qu'on peut refaire sur le théâtre... Bois.
Bois,
oui.
Bois.
OK.
Juste avant, Justine, est-ce que tu
souhaites... Oui, je vais poser une question. Juste rebondir sur ce que tu as dit et vous poser une question. Oui, par rapport à l'utilitarisme, la littérature n'est pas une discipline, et c'est vrai qu'il y a souvent un amalgame entre la recherche en littérature et la littérature. On le voit avec le prix Nobel, hein. Il y a le prix Nobel de littérature, il n'y a pas un prix Nobel de recherche en littérature, le prix Nobel d'économie, enfin bref. À propos de ce qui...
En économie, oui,
ce que tu as dit par rapport à...
En Belgique, Isabelle l'avait...
Isabelle Roussel-Gilet,
Isabelle Sanguier, elle avait appris en Belgique de sciences sociales.
D'accord. Par rapport à l'utilitarisme, il y a des écrivains, j'ai parlé de Le Clésio qui parle de témoignages, il y en a d'autres qui vont au créneau, comme Patrick Chamoison hein, en ce moment. Alors, on pense ce qu'on veut de ces textes poétiques, mais lui, en tout cas, il dit que le meilleur moyen de renouveler l'imaginaire du politique, c'est la littérature, c'est un imaginaire poétique. Donc, c'est d'où son intervention en ce moment... dans les médias, par rapport au texte là qui vient de paraître. Et il y a aussi ce texte, ce collectif, les écrivains aux côtés des migrants, qui réunit différents textes, notamment d'écrivains à ce niveau-là.
J'ai invité à Cerisy au Collège Fleury Brassage et que c'est 400 euros la journée, plus un voyage en je ne sais quoi. D'accord. <Oui. rire>
Ça, c'est autre chose
non,
encore.
Je préfère inviter des étudiants, et il ne viendra pas.
D'accord.
À l'engagement social.
Mais son livre, Frères migrants.
Et j'avais une question, en fait, par rapport à ce que vous avez dit. J'aimerais en savoir plus sur. Vous avez dit s'émanciper de son histoire. Donc création d'un narrateur pour s'émanciper de son histoire. Alors si le narrateur, c'est pas le narrateur, c'est le personnage. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur cette partie-là que
ça veut dire. Ça veut dire ici que quand... Parce qu'on avait dit des communautés qui avaient des identités sociales qui s'assemblent. Des groupes d'identité sociale. Quand on dit, en psychologie sociale, quand on dit identité sociale, c'est comme si c'était quelque chose de milité. Mais c'est quand on utilise la poétique, ça veut dire que chaque personnage, il a ce moment de poétique qui était dans les écritures, qui c'est quelque chose... Comment on peut expliquer en français? qui devient de cette expérience poétique, qui devient émancipateur, voilà, qui est dans chaque être humain.
Je crois que là, on est sur un problème de langage et puis de temps. Parce que je connais cette Cynthia, donc elle a fait bien avant que je la connaisse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus sur tout ce qui vient d'être dit et qui sont le contraire de ce qu'elle veut dire. Par exemple, sur la question, je me fais auteur, je me fais narrateur.
ça ne va pas du tout comme ça. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a des témoignages qui sont très riches, très contradictoires. Alors, évidemment, je vois, je vous donne des témoignages. On a par exemple une personne qui est leader communautaire qui veut exclure, nettoyer. On a un drag queen qui est préoccupé de sa propre transformation et de la transformation de la ville. On a tout un ensemble de témoignages de gens qui sont très paradoxaux, très... Voilà. Le premier problème, c'est comment on peut restituer cette richesse. Comment on restitue la richesse des témoignages? Ces témoignages ont une valeur littéraire. Enfin, moi, je vois les textes, c'est des choses très, très étonnantes. On va pouvoir en lire un peu, mais c'est... Donc, on a cette grande richesse. Pour la restituer, pour restituer cette multiplicité, cette richesse, la seule possibilité, c'était justement le narratif. C'était arriver à ce que cet hétérogène soit organisé, cet hétérogène soit relié. Donc, c'est de là que vient le narrateur. C'est pas quelqu'un qui s'est dit j'ai fait mon terrain et je vais raconter ce terrain. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on part de la richesse des textes et on dit comment on les restitue. C'est ça. Donc c'est pas quelqu'un qui s'improvise narrateur. Je crois que c'est ça le problème. Le deuxième aspect, sur la pièce de théâtre, on retrouve le même problème. C'est-à-dire, on a effectivement la possibilité du roman, le narrateur qui raconte tout ça, donc qui est porte-voix. Hein, il est porte-voix, le narrateur. Donc il parle, il laisse parler les uns, il amplifie, etc. La deuxième idée, c'est comment dans cet espace peut se nouer toute cette complexité. Et c'est vrai qu'à pièce de théâtre, bah c'est peut-être plus facile parce qu'on a une dimension déjà spatiale d'emblée en pièce de théâtre. Et puis c'est ce qu'appelle la contemplation des lieux. Ces lieux, chacun, c'est une petite scénette à telle heure de la journée. Il y a une scénette qui se met en place sur une place, par exemple, hein, la place de la République. C'est une petite scénette quand on voit des personnages qui se déplacent, etc. Donc on est déjà sollicité par ce modèle du théâtre. Et ce modèle du théâtre, quel est l'avantage ? Il permet à travers le dialogue des personnages, donc qui ne sont pas Cynthia, mais qui sont aussi ces textes riches, ces porte-paroles qui ont des textes riches et complexes et contradictoires. Hein. C'est ça la poétique, hein, c'est que ça échappe aux déterminismes sociaux. Et alors, ensuite, pour essayer de faire en sorte que tous ces personnages arrivent à montrer cette coexistence, le théâtre s'impose. Donc je crois pas que c'est quelqu'un qui se dit « je suis chercheur et puis je vais devenir auteur ». C'est pas ça, ça se passe pas du tout comme ça. Et autre aspect, peut-être ce qu'elle n'a pas dit, qu'elle aurait dû dire, c'est qu'elle est spécialiste d'un grand savoir-faire au Brésil qui est la participation. Donc je pense que ça permet de mieux comprendre tout ça. C'est que, Cynthia ne le dit pas parce qu'elle est un peu modeste, mais elle est une très grande spécialiste de la participation. Je veux dire qu'elle arrive à faire des choses qui me semblent assez incroyables, moi, vu de mon regard de français. Donc peut-être qu'il y a tous ces éléments-là de contextualisation qui sont nécessaires pour comprendre bien. Et quand on a parlé, quand elle a parlé de pragmatisme, c'est pas hasard. Le pragmatisme, c'était pas une parole en l'air, c'est également une posture de recherche qui traduit un certain engagement, qui traduit une certaine volonté d'intervenir en tant que chercheur. Donc on n'est pas dans une problématique d'utilisation de l'art, d'utilitarisme de l'art, on est dans une problématique d'engagement du chercheur. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin bon, je voulais rétablir un peu, parce que je vois qu'il y a des malentendus qui sont pas compagnons de
l'art. Je voulais remercier Jacques, je pensais que c'était clair.
Pour ma part, je suis assez content en fait qu'il y a une ambiguïté suffisante, qu'on ne sait plus tout à fait qui est personnage et qui est l'art. Moi, je pense que disons, c'est une ambiguïté qui n'est pas sans richesse. Donc, surtout dans ce contexte où les acteurs sociaux vont jouer un rôle de personnage, un rôle de narrateur et qui vont échanger mutuellement ces rôles, l'ambiguïté même est prégnante. Bon.
Oui. Je pense que ça pose d'autant plus une question quand même très, très contemporaine qui est en train d'émerger, je pense, de plus en plus de manière de plus en plus manifeste, c'est quand même la question de l'écriture et de l'écriture des sciences sociales, du statut justement d'auteur. Moi je revendique fortement ce statut d'auteur, c'est-à-dire de responsable de l'écriture. Et qui effectivement se tisse certainement de mille relations très diffuses, très intimes avec ce qu'on pourrait attendre de la littérature. Mais encore une fois de plus, il faut se monter, il faut déconstruire aussi tout ça. Sciences sociales avec un grand S et littérature avec un grand L. Et je crois qu'on peut malgré tout identifier une différenciation, mais une différenciation en acte et qui est productive d'un sens qui. Tout ça, c'est difficile aussi parce que c'est devant nous, c'est en train de se faire. Hein. Donc on en parle vraiment d'une manière non certaine. Hein. En tout cas, ce sont des hypothèses. qui est que la différence qu'il peut y avoir entre l'écriture, donc littéraire avec un grand et une science sociale, c'est qu'effectivement, il faut savoir s'engager dans cette perte, et je crois qu'il faut accepter aussi cette perte, qui a quand même été cette dimension paranoïaque pendant très longtemps de recherche en sciences sociales, du surplomb, hein, la fameuse histoire du surplomb dans les
sciences sociales,
qui est très critiquée. Mais qu'à la fois, et c'est ça le grand danger, moi je vois, c'est une question qui me taraude, parce que je réfléchis beaucoup par rapport entre l'écriture anthropologique et la poésie, pas le roman, mais vraiment la poésie, hein, c'est-à-dire l'art du hard, de se muter, de prendre comme ça, hein, de prendre comme ça le langage, hein, et de tenter d'égorger quelque chose, hein, en finir peut-être avec tout ça, mais en gardant, et c'est là le grand danger, une ligne épistémologique, c'est là où on se différencie, parce que sinon, faire n'importe quoi, en gardant dans le cadre de l'anthropologie, certainement, parce que c'est ce que je pense à faire Saint-Pierre aussi, c'est-à-dire quand même le côté de la description, c'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour venir se satisfaire ou jouir d'une certaine puissance un peu malsaine de ce que peuvent dire les gens qu'on interroge et sur quel on est. Hein. Et là, un contrat en plus, maintenant on parlait de Lévinas, et un contrat aussi tout à fait critique, hein, fondamental, hein, ce qu'on a cherché la parole des gens, qu'est-ce qu'on en fait, hein. Et donc d'accepter, vous voyez, c'est très délicat tout ça, hein, très délicat et c'est très instable. Enfin, moi j'entends ça et je pense que c'est très riche de pouvoir poser effectivement cette question-là et qui n'est pas facile parce que finalement on est dans une nouvelle époque et quand même cette grande rupture épistémologique de sciences sociales. Et je crois que dans cette rupture actuelle que nous vivons, qui est très saine, cette question est essentielle. Ouais, je ne sais pas si j'ai été clair.
Pour une dernière question.
Pour revenir à ce qui vient d'être dit, je crois qu'on a été formé dans une certaine épistémologie. Je dirais, enfin, par exemple, en aménagement, on avait qu'un modèle géographique, c'était la physique du 17e. Hein. C'était le modèle épistémologique. Moi je me dis que c'est pas mal qu'on commence à assumer notre part d'ombre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on s'est formé dans la littérature, on s'est formé dans tout un ensemble de disciplines qui n'ont rien à voir avec la physique du 17e, avec la gravité, toutes ces choses-là, enfin le gravitaire à l'ancienne. Hein. Donc je pense que peut-être qu'on bascule d'un autre côté, ça peut être inquiétant, mais je trouve que c'est pas inintéressant de. Dire un peu qu'on vient quand même de là et que dans un texte de Proust, il y a plus d'informations que dans certains textes de sociologie sur l'hyper-richesse. Alors peut-être qu'il faut réfléchir à quels sont les effets du style. Le style, ça a des effets de production réelle. On y réfléchisse. Parce que notre épistémologie doit s'appuyer sur le style. Et le style produit des richesses par ses contraintes, justement. Alors, les contraintes ne sont pas simplement les contraintes du laboratoire physique, mais c'est aussi les contraintes du laboratoire stylistique qui produit les contraintes et qui a des effets de réalité, de vérité. Donc ça, il faut qu'on se rapproche tout ça. Est-ce que c'est un peu ça qui est en toile de fond derrière ce que dit Cynthia, derrière ce que dit mon collègue. Je crois qu'on est vraiment là-dessus. C'est un moment important.
C'est bien sûr. Non, je voulais, moi, poser une question. Non, parce que... Non, j'étais un peu inquiète quand tu as dit oui, mais l'utilitarisme de la littérature, l'art, pour la transformation de la réalité. C'est ça que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que la transformation pose des problèmes pour la littérature, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai compris comme ça.
Ce n'est pas forcément une position personnelle. Je pense que, de toute façon, ce dont tournent toutes ces discussions, c'est la question de l'autonomie, non seulement des disciplines, mais des objets épistémologiques. Et du coup, si des disciplines, comme la littérature par exemple, qui revendiquent une autonomie de leur objet, semblable à une discipline dont l'objet est plus évident, ça veut dire parfois qu'il y a des sensibilités autour de quand on va se servir ou utiliser ces disciplines pour des raisons très positives, pour enrichir des méthodologies. Et donc la question c'est, est-ce qu'on n'est pas du tout dérangé par ça, et que ça fait partie d'un enrichissement méthodologique positif, ou bien est-ce que cela pose un problème pour l'objet lui-même. Donc c'est un peu le centre de la controverse.
Oui, une question par rapport à ce que vous avez dit. On a envie de, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur... Vous avez dit, c'est partie de conflits identifiés dans l'espace public, on voudrait savoir quels sont ces conflits. à partir desquels vous faites des personnages, dans quels personnages et, enfin, parce qu'effectivement, ça pourrait illustrer un petit peu plus, c'est quoi ces conflits et c'est qui ces personnages enfin, et voilà. Ça pourrait imager un petit peu le discours qui était.
Je pense que. Je n'ai pas montré les personnages, non des choses qui. Parce qu'ils sont 15 personnages. Bon, leader communautaire sans domicile fixe, ça veut dire leader communautaire, les habitants, bon, leader communautaire, elle disait les sans domicile fixe et des paysages indésirables. Voilà. Drag queen, qui faisait la fête, le groupe de drag queen faisait la fête de l'avenue, de la nuit. On a retraité, c'était plus tolérable. On a des petits enfants SDF, comment vous dites ça, meninas de rua. Il y a, au centre-ville, maintenant il y a beaucoup de bâtiments vides. Donc il y a beaucoup d'occupations irrégulières, ça veut dire des mouvements de la population. Donc ça, c'est un groupe aussi. La présidente de l'association locale, qui c'était quelqu'un, au contraire de la leader communautaire, qui voulait, comment on dit, faire vivre tous ces personnages ensemble aussi. Ça veut dire qu'elle était plus travesti, comerciante, né, proprietário de restaurantes, porque il y a beaucoup de restos, un syndic de l'immeuble, que ele sofreu beaucoup à cause de. Se battu à cause de la. De la fête de la nuit, voilà. Des cadres, un vigile du quartier, ouais. Homosexuel, professionnel libéral et vendeur ambulant. C'est ça, sont les camps. Donc il y a les personnages du jour et les personnages de la nuit, c'est ça. Et par exemple, les SDF, pendant la journée, ils restaient. On dit rester en retraite, oui. Comme si elle était fora do palco, comme on dit ça. bon, voilà, ces personnages.
Merci beaucoup.